Por primera vez en 20 años. La rumeur du monde. La rumeur du monde, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani, l'Europe et les deux Mario. Il y a deux Mario en Europe et nous allons nous interroger sur le point de savoir s'ils peuvent, à eux deux, sauver l'Europe, ou en tout cas s'ils peuvent y contribuer, dans quelle mesure y contribuent-ils peut-être déjà. Les deux Mario, c'est évidemment Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, et Mario Monti, le président du gouvernement italien, qui chacun à sa façon, le premier par l'action très vigoureuse de la Banque Centrale au bénéfice des banques, le second par son action très vigoureuse au service de l'économie italienne, mais donc au service de l'ensemble des autres pays européens et notamment de la France, ont engagé l'un et l'autre des actions qui jouent leur rôle probablement dans l'accalmie actuelle de la crise, même si cette crise revient ou est peut-être en train de revenir par l'Espagne. On ne sait pas trop. En Espagne, vous le savez, il y a eu des manifestations très importantes, une grève générale liée à la réforme du Code du travail par le gouvernement espagnol, moins au programme d'austérité de ce gouvernement espagnol, nouvellement élu, gouvernement de droite, que à la réforme du Code du travail. Et de la même façon, Mario Monti en Italie, s'il doit rencontrer une hostilité quelconque, c'est celle des syndicats sur la réforme du droit du travail. Alors pour aborder un petit peu toutes ces questions, nous avons aujourd'hui avec nous Marc Lazare, qui est professeur à Sciences Po, que nos auditrices et auditeurs connaissent bien pour sa parfaite connaissance de l'Italie et au-delà, bien sûr, et Éric Leboucher, qui est éditorialiste à Slate.fr, mais qui est aussi directeur d'Enjeux les Échos. Peut-être allons-nous commencer d'un mot avec vous, Éric Leboucher, pour avoir un premier état des lieux sur l'Europe et sa crise. Intéressant d'ailleurs de voir que dans la campagne française, cette crise a pratiquement disparu des écrans radars parce qu'il y a eu une accalmie, que cette accalmie est manifestement liée à l'action de la Banque centrale. Tout au plus, entend-on parler du renforcement du fonds de stabilité européen que les Français voudraient porter à 1 000 milliards, que les Allemands voudraient voir limité à 700 milliards d'euros, au cas où une sorte de bouclier, de pare-feu pour éviter tout renouvellement de la crise des dettes souveraines telle que nous l'avons vécue. Alors, une première analyse, Éric Leboucher.
Oui, accalmie, c'est vrai, mais c'est le bon terme. Depuis le début de l'année, les bourses remontent, le moral revient un peu. Les pays du nord de l'Europe, à commencer par l'Allemagne, vont mieux, non seulement financièrement, mais économiquement. Leur croissance est assez bonne. Leur taux de chômage, le taux de chômage allemand, est au plus bas, 6,5%, le plus bas depuis 20 ans. Donc effectivement, il y a du mieux. D'autres, c'est pas dû seulement à l'Europe, c'est dû essentiellement aux États-Unis, où la croissance s'affirme et le nombre d'emplois se consolide. Et donc, ça, c'est la première puissance mondiale va mieux, tout le monde va mieux. Donc oui, c'est une accalmie, je crois. Tout le monde pense qu'on en a pour deux ans de calme. C'est effectivement en Europe l'action de Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, qui a provoqué directement cet apaisement. Comment il a fait ? Vous savez que la Banque Centrale avait déjà agi plusieurs fois en faveur contre la crise. Jean-Claude Trichet, le précédent président, avait compris immédiatement ou très vite la gravité de ce qui se passait après la crise Lehman, et il avait arrosé autant qu'il pouvait les banques de financement. Mais là, Mario Draghi a changé de toute autre échelle. Il a fait, en fond, ce qu'on peut appeler l'open bar. Toutes les banques pouvaient venir et obtenir de l'argent à 1% sur 3 ans, autant qu'elles voulaient. Il l'a fait en deux fois. Donc à chaque fois, il y a des centaines de banques européennes qui sont venues prendre 500 milliards la première fois, 500 milliards la seconde fois, un peu plus même. Et donc, faisant cela, il a rompu le cercle vicieux qui existait entre la dette des États et la dette des banques. C'est-à-dire que la dette des États se grossissait, puis perdait en qualité. Donc, les banques étaient obligées de tenir compte dans leur bilan de cette dégradation. Et donc, elles-mêmes s'affaiblissaient et donc ne pouvaient plus acheter de dette d'État, etc. On était dans un cercle vicieux. Il a coupé cette liaison dette bancaire, et enfin dette d'État, dette bancaire. Et donc, au fond, la dette bancaire est mise de côté. Voilà, il n'y a plus de souci de liquidité dans les banques. Et reste posée la dette des États qui fait l'objet de réformes, qui fait l'objet de consolidations, etc. Mais ça ne rompant ce cercle vicieux, il offre deux ans d'accalmie à l'Europe.
Alors face à la dette des États, il y aura évidemment l'action des gouvernements. On va donc évoquer l'action de l'autre Mario Monti. Mais auparavant, avec vous, Marc Lazare, juste un mot. Est-ce que, en France, la présence de Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque Centrale Européenne, malgré tout, pesait sur les acteurs politiques, même si Jean-Claude Trichet, à intervalles réguliers, avait été en butte à l'hostilité de Jacques Chirac, puis celle de Nicolas Sarkozy, pour finalement s'apercevoir qu'il était davantage un rempart qu'un ennemi pour nos gouvernements. Est-ce que la présence à la tête de la Banque Centrale Européenne de Mario Draghi a une influence sur le comportement des acteurs italiens ?
Oui, je crois, pour deux raisons. D'une part, parce que l'Italie, on le sait, est plus européiste, disons, en tout cas, dans la grande majorité de ses élites que la France. Donc, de toute façon, on écoute beaucoup ce qui vient de la Banque Centrale Européenne. C'est, j'allais presque dire, naturel. Donc, c'est culturel. Et donc, ça, c'est un premier élément qui joue en faveur de Mario Draghi. Le second point, c'est que la présence de Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne et le fait que Mario Monti soit à la tête du gouvernement italien a rehaussé immédiatement l'image et la crédibilité des élites italiennes au niveau européen, qui avaient été particulièrement écornées depuis 1994 avec l'obsession berlusconienne, la présence des trois victoires électorales de Silvio Berlusconi et toute cette classe politique venue de son sillage qui n'était pas toujours caractérisée par sa compétence. Il y a des gens compétents chez les berlusconiens, c'est incontestable, mais tous ne l'étaient pas et du coup, la crédibilité italienne a beaucoup repris de la vigueur.
Jean-Claude Casanova, sur cette crise...
Je dirais que globalement, on est dans une situation européenne d'accroissement de la confiance, ou d'amélioration de la confiance ou de la crédibilité, comme on voudra. Parce que, au fond, la difficulté, l'énorme tumeur grecque a été isolée. D'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui le tableau des spreads, c'est-à-dire de la différence entre les taux d'intérêt des emprunts d'État à 10 ans par rapport à l'Allemagne, il y a la Grèce qui est tout à fait anormale, ils doivent être à 19 ou 20%. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas emprunter. Et puis, il y a les pays vulnérables, l'Italie et l'Espagne un peu au-dessus de 5%. Puis, il y a les pays autour de 3%, la France un peu au-dessous de 3% et l'Allemagne à 1,85%. Donc, et ça ne s'élargit plus. Donc, la confiance est plus grande. Et vous avez vu que cette semaine, on a donné en gros les différentes statistiques de réduction de la dette publique dans les différents pays. Tout le monde fait un peu mieux pour 2011 que la prévision qui avait été faite. Donc, disons que les marchés, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui gèrent des actifs, se disent, bon, les gouvernements sont sur une voie raisonnable, comme la conjoncture américaine paraît là sérieusement bonne, etc. La confiance revient, le problème. Mais, si j'ose dire, Eric disait, et vous insistiez sur le rôle de la Banque Centrale Européenne, elle a très bien joué. Ça, il faut reconnaître que Trichet avait été le premier à voir qu'il y avait un très grand risque bancaire. Et c'est, si j'ose dire, c'est tout à fait le contraire des années 30. Parce que dans les années 30, la catastrophe est venue du fait que les autorités n'ont pas compris que si on laissait les banques s'effondrer, tout le monde entier serait touché. Et au début des années 30, on a laissé les banques faire faillite par une erreur très profonde de la Réserve fédérale de New York et disons de l'incompréhension générale du monde politique et économique de l'époque à l'égard du fait que c'était les banques qui étaient les vrais créateurs de monnaie. Donc aujourd'hui, Le système bancaire européen ne peut pas s'effondrer tellement on l'alimente, quoi. Je lisais même dans un journal que les organismes de crédit des entreprises automobiles, qui sont des petites banques à elles-mêmes, mais qui sont des filiales de Volkswagen ou autres, se trouvent renfloués par ce système et offrent aux emprunteurs de crédit, aux demandeurs de crédit qui veulent acheter une voiture, des taux d'intérêt encore plus bas grâce à ce système. Donc on voit bien, là on a l'exemple typique que quand vous alimentez les banques, vous alimentez la totalité de l'économie. D'autant qu'on était dans une période où par d'autres côtés, on freine les banques. Quand on leur demande d'augmenter leurs actifs, enfin, quand on les réglemente davantage, on les freine. Alors, ça compense la nécessité de réglementation qui vient de Bâle ou des politiques nationales. Mais il reste que l'Europe a une croissance quasiment nulle, globalement, et qu'on annonce en 2012 pratiquement un peu au-dessus ou au-dessous de zéro. C'est-à-dire que ça veut dire que les chômages ne diminueront pas et que les gouvernements espagnols et italiens, quand ils veulent venir sur le marché du travail, les réformes sur la productivité, etc., vont rencontrer des résistances. Curieusement, d'ailleurs, je voudrais noter que quand Mario Monti s'occupe du marché du travail et de la libéralisation du marché du travail pour accroître la fluidité sur ce marché, il agit en fonction de la croissance. Donc ceux qui disent croissance d'abord avant rigueur devraient soutenir Monti qui, là, quand il s'occupe de ça, ne s'occupe que de la croissance et pas de la rigueur de vouloir libéraliser le marché du travail en Italie. C'est la volonté de sortir d'une forme de corporatisme. Je rappelle que la première grande loi anticorporatiste est la loi Le Chapelier, c'est-à-dire la principale construction de la Révolution française à ses débuts.
On a fait largement marche arrière depuis.
On a fait marche arrière, mais l'idée de la loi Le Chapelier qui venait de Turgot, c'est que si vous freinez les corporations, si vous réduisez le rôle des corporations, vous accroissez l'accroissement de la productivité.
Alors, dans la crise européenne, il y avait évidemment le problème de ces pays qui tombaient ou étaient menacés comme des dominos, et celui que l'on regardait le plus près, c'était évidemment l'Italie. Avec la pression, vous vous en souvenez, qu'ont exercé la France et l'Allemagne sur l'Italie pour changer la donne politique, avec donc l'arrivée ensuite de Mario Monti à la tête du gouvernement. Donc on va revenir un petit peu sur les conditions politiques de tout cela. Mais auparavant, avec vous, Éric Le Boucher, j'ai envie de dire, évidemment, ça n'est pas l'air du temps en France de dire cela, mais on a un peu l'impression que Mario Monti, en 3 semaines, a fait ce que Nicolas Sarkozy n'a pas su faire en 5 ans, en termes de réforme de structure destinée à remettre le pays en route vers la croissance. Éric Le Boucher.
Oui, je dirais tout à fait juste. Et pourtant, on lui a proposé à Nicolas Sarkozy, puisque il se trouve que j'étais aussi avec Mario Monti dans la commission de Jacques Attali sur la libéralisation de la croissance. Et l'ensemble des mesures qu'on voit aujourd'hui appliquées en italien par Mario Monti ressemble fort, comme un copier-coller, au rapport Attali. Alors, juste un mot, parce que pourquoi la confiance n'est pas entièrement revenue? Pourquoi il y a quand même un doute dans le fond du crâne des investisseurs? Et on le voit par exemple sur les mesures de CDS, qui sont des outils d'assurance sur les dettes des États. Ils n'ont pas baissé encore. Donc le doute demeure. Le doute demeure parce que l'exercice auquel se livrent les Européens aujourd'hui est très compliqué, très neuf. D'habitude, ces réformes durent. On les fait en période de croissance. On les fait quand il y a du grain à moudre, parce que ces réformes, souvent, elles sont un peu pénibles. Quand on libéralise les conditions de licenciement, il y a des entreprises qui commencent par licencier. Avant que ça ne refasse marcher dans le bon sens le marché de l'emploi, c'est forcément un peu long. Donc on passe par un creux avant de remonter plus haut que le point de départ. C'est tout le pari des réformes structurelles. Mais on les fait souvent dans la vitesse, avec la facilité de la croissance. Or là, les pays qui en ont le plus besoin, les pays du Sud, le font en période de récession, et de récession assez grave. Donc c'est une sorte de double peine, et l'exercice est difficile. L'Italie va sans doute être en récession cette année, l'Espagne aussi, le Portugal aussi, et la Grèce pour la 4e ou 5e année consécutive. Donc on comprend que sont engagés au fond des courses de vitesse entre le bénéfice de ces réformes et la rue, qui évidemment, elle, paye par le chômage, par des taxes, par des baisses de salaire directement cette austérité qu'on impose. Donc il faut, la question qui demeure, c'est il faut que la croissance revienne assez vite avant que les peuples soient trop révoltés contre cette purge qu'on leur inflige.
Alors Marc Lazare, le peuple italien et les réformes Monti.
Eh bien, je crois qu'Enrico Bucci vient de résumer tout à fait ce qui est en train de se passer en Italie. Hier, vendredi, toute la presse titrait sur la chute, selon cette presse, des bourses italiennes et la remontée des spreads, ce qui montre la sensibilité très très forte qu'il y a encore dans le pays. Et d'ailleurs, le président économique dévoilé hier, donc vendredi en Italie, annonçait un pays en récession pour toute l'année 2012. Alors, oui, les réformes sont nombreuses, c'est vrai. Mario Monti, qu'on présente comme un gouvernement technique, a ouvert en quelques semaines un nombre de chantiers de réformes impressionnants. Il a immédiatement annoncé des mesures d'austérité sur les retraites, d'austérité en général avec des restrictions budgétaires. Il a allongé la durée de cotisation et donc d'activité avant le départ à la retraite de manière assez brutale. Il a annoncé pour 2012 que les gens qui devaient partir à la retraite travailleraient 4 années et demie plus. On imagine ce que ça donnerait pour le futur président de la République ou le candidat sortant s'il est réélu. Il a effectivement augmenté une série d'impôts et maintenant il s'engage dans la réforme des marchés du travail. Et là peut-être, c'est en train de se bloquer. Mario Monti a pour lui une grande popularité, mais actuellement, les sondages de cette semaine montrent que les Italiens ne sont pas d'accord avec la libéralisation du marché du travail annoncé. Les syndicats sont en train d'annoncer des grèves générales. Le Parti démocrate, c'est-à-dire le parti de centre-gauche, profondément divisé sur cette question, est en train de jouer un jeu d'équilibriste assez périlleux, dans lequel, d'un côté, il essaye de manifester sa solidarité avec les syndicats, de l'autre côté, il essaye de trouver des compromis. On est là un peu à la croisée des chemins. Et je me permettrai de tempérer votre enthousiasme à l'égard de Mario Monti, dans le sens que, justement, la réforme décisive, là, c'est la libéralisation du marché du travail. Est-ce qu'il va la réussir? C'est la grande inconnue. Et d'autre part, même s'il la réussit, il y a un élément qu'il faut toujours avoir en tête quand on réfléchit sur cette question en Italie, c'est les résistances de l'administration. Il y a d'un côté les effets d'annonce qui sont très importants, de l'autre côté il y a l'inconnu de la réaction des salariés en particulier, et la troisième chose c'est comment l'administration met tout ça en musique, et en général elle n'a justement pas tendance à mettre cela en musique. Donc je suis très frappé par le fait que dans toute l'Europe on salue l'action de Mario Monti, qui comme l'a rappelé Éric Le Boucher, est quelque chose de tout à fait ce que fait Mario Monti, il l'avait annoncé depuis des années. Il ne savait pas qu'il serait président du Conseil un jour, mais c'est vrai qu'il a été dans la commission Attali. C'est vrai qu'après la commission Attali, il a proposé de faire une commission Attali à l'italienne. Son journal, il était éditorialiste au Corriere della Sera, a mené pendant plusieurs semaines une campagne pour dire quels seraient les chantiers de la réforme. Il avait, de ce point de vue-là, un plan de tête qu'il applique. Et en ce sens-là, et je conclue sur ce point, ce n'est plus un gouvernement technicien, c'est un gouvernement profondément politique, politique au sens qu'il est le gouvernement aussi du président de la République, Napolitano, et politique au sens qu'il ouvre des chantiers dans un pays de réforme, dans un pays qui est justement réputé pour avoir du mal à se réformer. Je précise une dernière chose, vendredi, Mario Monti, dans une lettre au Corriere della Sera, a clairement dit qu'il ne continuerait pas son action après 2013, date de la prochaine élection, et que, contrairement aux rumeurs qui commençaient à circuler un peu partout en Italie, il n'envisageait pas une carrière politique.
Marc Lazare, avant de poursuivre sur ces terrains, est-ce que vous pouvez nous redire en quoi, parce qu'on dit libéralisation du marché du travail, en quoi, quelle est la réforme en Italie, quel est le point de départ et quel est le point d'arrivée que recherche Mario Monti, en ayant à l'esprit l'extraordinaire difficulté de ce sujet et en rappelant que deux précédentes tentatives de réforme se sont soldées par des assassinats. Assassinats des conseillers, des ministres, de ceux qui fabriquaient les réformes de l'époque, qui étaient conseillers des ministres du travail, de travail successifs, et qui ont été l'un et l'autre assassinés. Donc c'est un sujet plus que sensible, évidemment. Marc Lazare.
Alors, l'essentiel de la réforme, c'est de modifier le fameux article 18 du statut des travailleurs, qui a été une des grandes conquêtes syndicales des mobilisations des années 70, et qui, rend particulièrement difficile les licenciements. Donc, c'est un sujet très sensible. Et l'argumentaire du gouvernement, c'est de dire qu'en rendant les licenciements plus faciles, on peut attirer beaucoup plus les investissements, notamment des entreprises étrangères, et que l'on aurait, de ce point de vue-là, juste les conditions réunies pour une reprise de l'économie. Et ça s'accompagne d'une série de propositions visant en contrepartie à donner des garanties pour essayer de réduire la précarité, et en particulier la précarité des femmes et des jeunes. Voilà en gros la réforme, et les syndicats en particulier sont très attachés d'un point de vue symbolique à la défense de ce fameux article 18 du statut des travailleurs, et plus généralement s'oppose aux facilités de licenciement que propose le gouvernement. Donc on est là sur un sujet extraordinairement sensible, et en plus, dans un premier temps, seule la confédération CGL, qui est la confédération qui longtemps a été liée au Parti communiste, qui est la principale confédération syndicale, a été la première à se démarquer nettement du gouvernement. Les deux autres, la CHIS et la WIL, c'est-à-dire la confédération plutôt d'origine chrétienne, aller pour aller vite un peu la CFDT, et la WIL, aller pour aller vite un peu FO, était plutôt du côté du gouvernement Monti. Et sentant que la population résistait très fortement à la réforme du gouvernement, se sont ralliés à la CGL et maintenant demandent à renégocier les propositions du gouvernement. Alors attention, nous en sommes au début, c'est-à-dire que normalement il va y avoir un débat parlementaire. Nous sommes dans une démocratie parlementaire en Italie, et donc les parlementaires sont bien décidés à revenir sur une série de propositions du gouvernement, comme d'ailleurs sur d'autres dispositions parfois plus symboliques, notamment l'ouverture de commerce, les pharmacies et les taxis, qui sont aussi des sujets que le gouvernement essaye de décorporatiser, si je peux me permettre d'employer cet horrible néologisme.
Éric Le Boucher.
Oui, je comprends que Mario Monti menace de démissionner, parce que cette réforme du marché du travail est essentielle, à ses yeux bien sûr, mais aussi pour faire basculer les esprits d'un monde à un autre. Autrement dit, pour cesser d'avoir une conception ancienne de l'économie où, quand on a un emploi, on le garde, pour passer dans une économie beaucoup plus moderne où on va avoir un emploi, le perdre, se faire reformer, retrouver un emploi, etc. C'est-à-dire, et malheureusement, le sort qui nous attend un peu tous dans le marché du travail où l'emploi à vie est désormais du passé. Et donc, c'est ce mécanisme-là que veut faciliter Mario Monti en Italie, comme le gouvernement espagnol veut le faire en Espagne, comme le gouvernement français l'a fait de façon un peu timide ces 10 dernières années par petites touches, c'est d'arriver à ce que l'Europe du Nord avait appelé la flexi-sécurité. On donne de la possibilité aux entreprises de licencier plus facilement, mais on protège les salariés d'une part, une indemnité, chômage, et puis ensuite, une formation, etc. C'est ce donnant-donnant que Mario Monti veut installer en Italie. Alors, c'est pour ça qu'il y a deux versants dans cette réforme. Ça n'est pas simplement faciliter les licenciements, c'est faire une assurance chômage pour tout le monde, universelle. Alors qu'aujourd'hui, seulement une catégorie, une partie de la population l'a. Donc tout le monde l'a, toucheront en gros, je crois, 1200 ou 1100 euros par mois. Ça, c'est tout le monde l'aura quand on sera licencié. En échange de ça, effectivement, les licenciements sont facilités. Et c'est pas les entreprises ne seront pas obligées, comme autrefois, à réintégrer le salarié si le juge l'oblige. Donc voilà, c'est très symbolique, mais en même temps très essentiel comme réforme pour, au fond, libérer la croissance, c'est faciliter les allées-venues. Le marché du travail, c'est pas un truc fermé, il y a une entrée et une sortie. Plus les sorties sont grosses, plus les entrées seront grosses. C'est ça le principe dans une économie souple.
Jean-Claude Casanova.
Oui, je suis complètement de l'avis d'Éric, et j'ai été, comme Marc Lazare, impressionné par la lecture attentive de la lettre de Mario Monti qui est dans Il Corriere et d'hier. Et je recommande à nos éditeurs de lire cette lettre, je ne sais pas si elle sera traduite en français, elle sera sans doute traduite, et de lire en même temps le grand éditorial de l'Économiste d'hier aussi, qui est sur la France, mais qui a une formule règle que je trouve importante et qui peut s'appliquer à la situation italienne, c'est si les hommes politiques ignorent les problèmes économiques, ils rendent plus difficiles leurs solutions. Et la lettre de Mario Monti, ça consiste à dire « je suis un technicien, je m'en irai, ce n'est pas une forme normale de gouvernement, je m'en irai à la date, les hommes politiques reviendront, mais vous constatez que la situation italienne est très difficile, vous constatez que l'opinion publique italienne comprend la nécessité des réformes et que ces réformes sont nécessaires. » Et bien entendu, ce subliminé, il dit « écoutez, si vous ne voulez pas faire les réformes, eh bien vous aurez une situation pire. » C'est-à-dire que les gens qui disent non, ben ils auront un taux de chômage plus élevé. Le système auquel vous faisiez allusion, Éric Le Boucher, le système de l'Europe du Nord, en gros, ça, on constate, il suffit de regarder la statistique des taux de chômage. En gros, les pays qui ont des taux de chômage les plus bas sont les pays qui ont le système de marché du travail le plus flexible. Et les pays qui ont un système de marché du travail extrêmement réglementé ont des taux de chômage plus élevés. Alors si les gens veulent avoir en parole la satisfaction intellectuelle, symbolique comme on dit, d'avoir de la réglementation et du chômage en même temps, très bien. Et Mario Monti, il s'exprime très exactement comme l'économiste. Ou bien vous comprenez le problème et vous acceptez les solutions qui sont nécessaires, ou bien vous refusez de le comprendre et vous avez les conséquences que vous n'osez pas dire, mais qui se produiront inévitablement.
Marc Lazare, sur ces considérations autour de...
Je crois qu'à la fois les interventions d'Éric Le Boucher et de Jean-Claude Casanova ont très bien montré les enjeux de ce qui est en train de se dérouler dans la péninsule italienne. Le seul problème, c'est que cette réforme, comme l'a dit d'ailleurs Éric au début de notre conversation, arrive dans une période de grande récession et d'austérité que les Italiens sont en train de ressentir, tout simplement parce qu'ils regardent leur bulletin de salaire, ils regardent les prix, et bon, voilà, il y a une situation qui commence à être particulièrement tendue. On a constaté que, par exemple, à Rome, les habitants de Rome prenaient moins leur voiture et plus les transports en commun parce que l'essence atteint un prix absolument insupportable. Voilà, il y a une situation sociale qui est particulièrement tendue. Alors moi, je pense, hasard va faire un pronostic, je pense qu'on arrivera en Italie à trouver un compromis. Et pour une raison d'ailleurs qui est assez simple, c'est que personne du côté des partis politiques n'a envie d'avoir des élections anticipées. Et par conséquent, tout le monde veut que Mario Monti dure jusqu'en 2013 et fasse ce travail-là. Et donc, il va falloir trouver des compromis. Des compromis du côté du Parti démocrate, du côté des syndicats. Et tout le problème, c'est de savoir si le gouvernement est prêt à modifier, à lâcher un peu de lest sur un ou deux points de sa réforme sans toucher à l'essentiel. C'est ça qui est en cause. Et depuis quelques jours, le gouvernement est très très ferme. L'un d'entre vous a évoqué la perspective de la démission qu'a annoncé à un moment donné Mario Monti, il est revenu en arrière. C'est vrai que Mario Monti n'est pas un politique, donc il connaît mal les rouages de la politique. Ce gouvernement est composé de professeurs, d'universitaires. D'ailleurs, il commence à y avoir un peu des attaques contre les universitaires de la part des politiques, ces gens qui sont parfois un peu rigides, ai-je entendu. Bon, mais il y a un autre acteur dans ce jeu, c'est le président de la République, qui lui est un fin politique. Et je pense qu'on arrivera à une solution de compromis. La grande incertitude, comme dans tant de pays, c'est de savoir ce que va penser la rue. Comment va-t-elle agir? Est-ce qu'on va avoir des mobilisations importantes dans les grèves? Est-ce qu'on va avoir des manifestations? Est-ce qu'on va avoir des débordements? C'est une des questions qu'on peut se poser. S'il n'y en a pas, alors je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'en Italie, il y aura des compromis. Dans ce cas-là, la réforme sera faite. Malgré la situation de récession, l'Italie fera un pari sur le retour de la croissance dans plusieurs mois, pas avant, me semble-t-il. Je ne suis pas économiste, mais apparemment tous mes collègues économistes me disent qu'au mieux, ce serait dans plusieurs mois. Et voilà, on aurait cet horizon qui se dégagerait.
Jean-Claude Casanova.
Mais justement, là, je voudrais poser la question suivante à Marc. Quand on regarde la lettre de Monti, il dit, au fond, les sondages montrent que le pays a confiance en moi, il ne le dit pas aussi brutalement, bien entendu, a confiance dans la nécessité des réformes. Alors, est-ce que cette appréciation est vraie? Parce que, est-ce que ce roc de confiance existe vraiment? À ce moment-là, comme vous dites, le compromis sera trouvé. Il suffira de trouver quelque chose qui ménage la revendication syndicale et les intentions du gouvernement. Mais est-ce que il n'est pas trop optimiste. Est-ce que d'après vous, ce qu'ont l'air de dire Napolitano et Monti, est-ce que c'est vraiment perçu? Est-ce que l'opinion italienne, sentant la difficulté de la situation, a un degré assez élevé de compréhension?
Marc Lazare.
Alors, c'est vrai que les sondages montrent que Mario Monti a une grande popularité, même si cette popularité est en léger déclin. En revanche, sur la réforme du marché du travail, l'opinion est beaucoup plus partagée. Alors, d'où vient cette confiance en général dans Mario Monti? Pour plusieurs raisons. D'une part, je crois que tous les déçus du berlusconisme se retrouvent derrière lui et considèrent d'une certaine façon que Mario Monti est en train d'appliquer une partie de ce qu'avait annoncé Silvio Berlusconi, notamment en 1994, lors de sa première élection. Et beaucoup d'électeurs du centre droit se disent finalement, c'est la raison pour laquelle on avait voté Berlusconi. Donc Mario Monti fait notre programme. Et en revanche, les opposants à Silvio Berlusconi sont tellement contents que celui-ci ne soit plus à la présidence du Conseil qu'ils sont prêts à soutenir n'importe qui, si j'ose dire. Et l'autre raison, c'est que est lié au climat anti-politique, c'est-à-dire que les politiques sont littéralement stigmatisées, rejetées par la population, et donc on préfère donner sa confiance à un technicien. Là-dessus, incontestablement, il y a toute l'image de Mario Monti, son sérieux, sa rigueur, le fait qu'il a redonné cette crédibilité à l'Italie, et ça fait partie de sa popularité plus personnelle. Et en ce sens-là, je crois qu'il a marqué des points. Et puis enfin, dernière argumentation qui explique, selon moi, ces sondages très favorables sur l'action générale de Monti, mis à part justement cette réforme décisive du marché du travail, donc il y a une forte inconnue là dans les semaines à venir, dans les mois à venir. La dernière raison de ce soutien, en quelque sorte, à Mario Monti, c'est qu'en effet, Mario Monti a fait, par sa pédagogie de professeur peut-être, prendre conscience aux Italiens que la situation était gravissime, pour employer un italianisme. Il faut reconnaître que Silvio Berlusconi avait déjà commencé à le faire à l'été dernier, lorsqu'il avait fait 3 correctifs budgétaires. Et il faut se souvenir aussi que Silvio Berlusconi, pendant plusieurs années, avait expliqué aux Italiens qu'ils étaient un oasis de prospérité dans un monde en feu. Et par conséquent, que tout allait bien. Non, Mario Monti a expliqué la gravité de la situation. Et il faut faire appel à l'histoire et se rappeler que ce pays, l'Italie, à chaque fois qu'on le voit quasiment au bord du gouffre, a des capacités de rebond incroyables. Je prendrai juste 2 exemples historiques. Les années 70, les fameuses années du plomb. Et puis l'autre exemple, au moment du passage à l'euro, où il y a eu un effort considérable de toutes les forces italiennes au terme d'une synergie absolument admirable. On est peut-être dans cette conjoncture.
Éric Le Boucher.
Oui, un mot sur cette pédagogie de la crise que Mario Monti fait, donc un peu, même en Italie, et qui n'est absolument pas faite dans la campagne présidentielle française. Il faut dire, à la décharge des hommes politiques, que ce que s'inflige l'Europe est terrible. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, on fait les réformes en pleine récession, donc les réformes ajoutent à la récession, avec l'interrogation sur à quelle vitesse retrouvera-t-on la croissance. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour les pays du Sud? Ils ont perdu en compétitivité, c'est ça leur problème. Et dans une union monétaire, puisqu'il reste dans l'euro, et personne n'imagine que l'Italie va quitter l'euro, il n'y a pas de manière de retrouver de la compétitivité que par une baisse des salaires. C'est ça donc qui se passe. Et donc la baisse des salaires, elle intervient comment ? Elle intervient par des taxes, elle intervient parfois des révisions ou des gels de salaire des fonctionnaires, etc. Et malheureusement aussi par une non-indexation totale sur l'inflation. Or, en Italie, l'inflation est à 2,9%, je crois, à cause du pétrole notamment, de l'essence qui a augmenté. Donc les gens perdent. Mais il s'agit précisément de ça. C'est-à-dire qu'on retrouve de la compétitivité en ayant baisse du pouvoir d'achat. C'est ça qu'il faut. C'est ça, les hommes politiques ont évidemment du mal à expliquer ça, particulièrement en France, où on promet encore le contraire. Pourquoi il faut faire ça? Parce que ça veut dire qu'évidemment, il y a une contraction de la consommation, dans ces cas-là internes, mais on retrouve des gains de compétitivité, donc on retrouve de l'exportation. Ça commence. Ça commence déjà au Portugal, ça commence en Espagne, ça commence un peu en Italie où l'exportation a gagné 5% hier. Et toutes ces réformes, voilà, par l'exportation, vont compenser la baisse de la consommation interne. Au total, si vous voulez, toutes ces réformes et tout ferait des gains. Laurence Boone, économiste à Bank of America Merrill Lynch, a calculé que ça ferait des gains en Italie entre 1,5 et 2% de croissance en plus, une fois que ça va payer. Ben voilà, ça va payer assez fortement.
Une fois que la machine sera relancée. Mais on se souvient en effet que Silvio Berlusconi expliquait aux Italiens que l'Italie résistait mieux que les autres à la crise, ce qui nous rappelle quelque chose. Jean-Claude Casanova.
D'ailleurs, on peut faire remarquer, entre parenthèses et un peu par ironie, que si on diminue le salaire réel par la hausse des prix, c'est un remède keynésien. C'est ce que Keynes souhaitait, c'est-à-dire augmentation du salaire nominal et baisse du salaire réel, de façon à rétablir l'emploi. Mais on ne peut pas toucher, on est dans une zone monétaire unique, on ne peut pas dévaluer. Hein, ou alors on sort de la zone monétaire et chaque pays européen essaye de faire de la dévaluation quantitative. À partir du moment où on ne peut pas dévaluer et qu'on veut retrouver de la compétitivité, on ne peut retrouver la compétitivité du côté de l'offre des entreprises par l'innovation, l'amélioration de la productivité, etc. Et du côté des prix et des salaires par la flexibilité. Il n'y a pas de, ce n'est pas du tout, ce n'est pas une politique antisociale puisque c'est une politique qui permettra l'accroissement du revenu et l'amélioration de l'emploi. Donc il est faux de dire qu'on choisit d'un côté une politique sociale et de l'autre côté une politique antisociale. C'est simplement une politique qui permet de trouver de l'emploi et de la productivité au bout d'un certain délai. Dans l'immédiat, moi, si quelqu'un connaît un remède pour augmenter tout de suite la compétitivité, c'est-à-dire la productivité des entreprises italiennes, sans rien changer, je suis prêt à lui signer un chèque en blanc, mais qu'il me dise comment il fait.
Marc Lazare, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure, le rôle du président de la République, Giorgio Napolitano. Et en France, ce qu'on entend dire, c'est « Ah oui, mais l'Italie, voyez, c'est une solution non démocratique. Pour s'en sortir, les Italiens... » Alors, c'est vrai qu'en France, il y a toujours une fraction de l'opinion qui est tentée par, j'allais dire, une sortie ou une voie non démocratique. Alors qu'en fait, me semble-t-il, le gouvernement Monti est un gouvernement d'unité nationale, en fait, et très dépendant, on va le voir, du Parlement, donc, et très dépendant également du président de la République, Marc Lazare, ou je me trompe.
Oui, je ne crois pas qu'on puisse dire que ça a été une solution non démocratique. En revanche, ce qui est vrai, puisque justement le président Napolitano est allé chercher Mario Monti, que Mario Monti a obtenu la confiance du Parlement, qu'effectivement il doit discuter devant le Parlement, et que c'est une union nationale qui n'ose pas dire son nom. Et qui, effectivement, Mario Monti n'existe que parce que à la Camera dei Deputati, c'est à la Chambre des députés et au Sénat, les députés et les sénateurs du Parti démocrate, du Peuple de la Liberté et de ce qu'on appelle ici le troisième pôle soutiennent son action. En même temps, ce qui est vrai, c'est que ça trahit une impuissance effrayante de la politique. Et c'est peut-être un élément qu'il faut que nous prenions aussi en considération, parce que jusqu'ici, à juste raison, nous sommes concentrés sur les questions économiques, nous avons évoqué les risques sociaux, mais dans le cas italien, et ça c'est peut-être la différence avec l'Espagne, ça rapprocherait peut-être de ce point de vue-là l'Italie à la Grèce, même si nos amis italiens ne supporteraient pas cette comparaison, c'est que tout cela se fait dans un climat, alors je vais essayer de trouver le meilleur mot, de déstructuration complète de tout le système politique, une nouvelle déstructuration. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est que actuellement, tout le système des partis politiques est en pleine recomposition. Le Peuple de la Liberté, le parti de Silvio Berlusconi, a une immense question. Peut-il exister sans avoir le soutien de celui qui l'a créé, à la fois Silvio Berlusconi? Pourra-t-il survivre à la mise à la retraite quasi définitive en politique, en tout cas de Silvio Berlusconi? De l'autre côté, le Parti démocrate est divisé sur toutes les questions, et notamment sur celle du marché du travail. Et il y a quelques jours en Italie, on se demandait s'il n'allait pas exploser tout de suite. Les alliances, la Ligue du Nord, le parti allié normalement du Peuple de la Liberté, est lui-même profondément divisé. Toutes les alliances sont en train d'être reconsidérées. Il n'y a plus d'alliance entre le Peuple de la Liberté et la Ligue du Nord. Le Parti démocratique ne sait pas avec qui s'allier. Est-ce que ça va être sur sa gauche ou est-ce que ça va être avec le centre? Et du coup, que fait-on? Eh bien, on est en train d'essayer de penser à des réformes institutionnelles. Il y a tout un groupe interparlementaire entre les trois principaux partis, le Peuple de la Liberté, le Parti démocrate et ce qu'on appelle le troisième pôle, le regroupement des centristes, qui a proposé une série de réformes à venir, réduire le nombre des parlementaires, donner plus de pouvoir au président du Conseil et transformer la loi électorale. Mais nous sommes à un an de l'échéance électorale et tout ça dans un brouillard total, dans une inconnue complète. Et j'ajoute une chose qui me frappe, c'est que ces partis sont incapables pour le moment d'envisager, de proposer des projets pour l'Italie. Est-ce que l'action de Monti, comment pourra-t-elle être prolongée? Comment favoriser le retour des investissements étrangers? Comment donner confiance à une jeunesse qui commence à être littéralement désespérée dans ce pays? Comment réinsérer, comment plus exactement permettre aux femmes d'arriver sur le marché du travail dans des proportions plus importantes? Comment regagner de la compétitivité? Les partis politiques sont silencieux. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte qu'il y avait une explication. C'est que depuis 1994, tout est polarisé autour de Silvio Berlusconi. On était pour ou on était contre. C'était le seul raisonnement qui était capable de faire les partis. Et donc, il y a une sorte de gigantesque vide culturel. Donc voilà, ça c'est une situation politique hein, très complexe qui se rajoute aux interrogations que nous avons déjà soulevées en matière économique et sociale.
Et les médias italiens, comment la classe élevée du journalisme italien, la presse éclairée, les médias, le monde intellectuel italien, comment réagit-il?
En 30 secondes, Marc Lazare.
En 30 secondes, ben, je crois que Mario Monti est très cité par le quotidien dans lequel il avait ses habitudes, donc la Repubblica a du mal à trouver un nouveau positionnement, il triompher grâce à l'anti-berlusconisme et soutenir le gouvernement Monti, c'est froisser une partie de son électorat. Donc il commence à y avoir là aussi des tensions, par exemple, dans la Repubblica.
Éric Le Boucher.
Oui, si on peut revenir par où on a commencé, c'est-à-dire par l'Europe. Comment l'Europe peut-elle aider chacun des pays en si grande difficulté? Comment peut-elle aider à un peu améliorer leur croissance? C'est toute la question. Alors, est-ce que Mario Draghi peut faire encore quelque chose? Peut-être abaisser ses taux, le fera-t-il s'il est sûr que les réformes sont bien conduites, et puis peut-être baisser l'euro par rapport au dollar, s'il peut faire ça, parce qu'il y a une dévaluation possible, c'est celle de l'euro par rapport aux autres. Et puis ensuite, c'est tout le débat immense de ce que peut faire l'Europe pour améliorer, accélérer la croissance globale, soit dans la zone euro, soit dans l'ensemble des 27. Et là, c'est vrai que la classe politique, Marc Lazare vient de dire, le désarroi de la classe politique italienne, on a un désarroi de toute la classe politique, je dirais, européenne, à reconstruire une Europe qui fonctionne mieux, post-crise. Là, on a très faibles propositions. Oui. On a simplement les propositions allemandes, l'austérité, mais on n'a plus de propositions du fédéralisme.
En tout cas, on y réfléchira et on y consacrera certainement une émission, parce que à la fois, moi, je pense que Mario Draghi comme Mario Monti ont une vision de l'Europe. Pendant ce temps, Madame Merkel, chaque week-end, réunit dans un petit château près de Berlin les pays partenaires par petits groupes de 2-3 autour d'elle, ce que n'a jamais fait la France, ce que n'a jamais fait Nicolas Sarkozy, et pour discuter de quoi? Des contours futurs de l'Union européenne et comment faire que l'Union européenne franchisse, après la crise, un pas politique de plus. Donc il y a des gens qui réfléchissent. Il y en a peut-être pas en France, mais il y en a en Europe qui réfléchissent. On aura l'occasion certainement d'en reparler. En tout cas, pour aujourd'hui, nous étions polarisés sur les deux Mario et principalement sur Mario Monti, grâce à Marc Lazare, qui nous parlait en direct de l'Institut européen de Florence et qui est professeur à Sciences Po. Merci Marc Lazare d'avoir été avec nous. Merci Éric Le Boucher de nous avoir également accompagnés. Éric Le Boucher, directeur d'Enjeux les Échos, éditorialiste à Slate.fr. Merci à vous toutes et à vous tous d'être fidèles à La Rumeur du Monde, qui était réalisée par Nicolas Berger, préparée par Meryl Moneghetti. À la console technique, Francis Pascal était avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous. Jean-Claude Casanova et moi-même vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre Rumeur du Monde.